Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Mais la langue française manque de mots pour ce mot amour. Parce qu'il y a trois formes différentes pour ce même mot. Et en grec, justement, il y a trois termes différents. Il y a l'amour éros, l'amour du jeune couple qui se regarde droit dans les yeux et décide de s'unir pour la vie. Il y a l'amour philos, amitié forte et réconfortante qui unit un cercle d'amis. Et surtout, il y a l'amour agapé, plus fort que la mort, plus fort que la foi, amour offrande de soi au service de ceux qu'on aime.
Amour agapé. C'est de cet amour-là que parle Paul quand il dit « Maintenant trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » C'est de cet amour-là que parle Jésus quand il dit « Aimez vos ennemis. » Amour plus grand que la foi qui peut transporter des montagnes. Amour divin qui fait de Jésus un homme d'apparence ordinaire de notre condition, parce qu'il le veut, par agapé, mais amour divin qui fait aussi que son nom des siècles après son passage sur terre a envahi notre monde, qui fait que nous nous rassemblons en son nom, qui fait que des pécheurs jadis rassemblés par lui, de simples pécheurs, lâches devant la croix, mais appelés, iront parcourir le monde pour répandre la parole, mue par une force extraordinaire.
Et c'est ainsi que nous retrouvons l'apôtre Paul dans la tempête. Lui qui disait « Quand bien même j'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. »
Et donc, nous raconterons deux histoires. D'une part, le voyage de Paul à Rome, et d'autre part, le livre de Jonas, la fameuse histoire de Jonas et la baleine, donc au chapitre 1 et 2 du livre de Jonas. La parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle un oracle, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Il descendit à Jaffa, y trouva un navire construit pour aller à Tarsis. Il l'affréta, s'embarqua pour se faire conduire par l'équipage à Tarsis, hors de la présence du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent. Aussitôt la mer se déchaîna, à tel point que le navire menaçait de se briser. Les marins, saisis de peur, appelèrent au secours, chacun s'adressant à son Dieu, et pour s'alléger, ils lancèrent à la mer tous les objets qui se trouvaient à bord. Quant à Jonas, retiré au fond du vaisseau, il s'était couché et dormait profondément. Alors, le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Hé, toi, tu dors ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être ce Dieu songera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Puis ils se dirent entre eux « Venez, consultons les sorts pour connaître le responsable du malheur qui nous frappe. » Ils consultèrent les sorts qui désignèrent Jonas. Ils lui dirent donc « Fais-nous savoir, quelle est ta mission ? D'où viens-tu ? De quel pays es-tu ? Quelle est ta nationalité ?» Il leur répondit « Je suis hébreu, et c'est le Seigneur Dieu du ciel que je vénère, celui qui a fait la mer et les continents. » Saisis d'une grande crainte, les hommes lui dirent « Qu'as-tu fait là ?» D'après les récits qu'il leur fit, ils apprirent en effet qu'il fuyait hors de la présence du Seigneur. « Qu'allons-nous te faire pour que la mer cesse d'être contre nous ?» lui dirent-ils, car la mer était de plus en plus démontée. Il leur dit « Hissez-moi et lancez-moi à la mer pour qu'elle cesse d'être contre vous. Je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête est contre vous. » Cependant, les hommes ramaient pour rejoindre la terre ferme, mais en vain. La mer, de plus en plus démontée, se déchaînait contre eux. Ils invoquèrent donc le Seigneur et s'écrièrent Ah Seigneur, nous ne voulons pas périr en partageant le sort de cet homme. Ne nous charge pas d'un meurtre dont nous sommes innocents, car c'est toi, Seigneur, qui fais ce qu'il te plaît. » Les hommes hissèrent alors Jonas et le lancèrent à la mer. Aussitôt la mer se tint immobile, calmée de sa fureur. Et les hommes furent saisis d'une grande crainte à l'égard du Seigneur, lui offrirent un sacrifice et firent des vœux. Alors le Seigneur dépêcha un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Les entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Et il dit, « Dans l'angoisse qui m'étreint, j'implore le Seigneur. » Il me répond, « Du ventre de la mort, j'appelle au secours. Tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans le gouffre au cœur des mers où le courant m'encercle. Toutes tes vagues et tes lames déferlent sur moi, si bien que je me dis, je suis chassé de devant tes yeux. Mais pourtant, je continue à regarder vers ton temple saint. Les eaux m'arrivent à la gorge, tandis que les flots de l'abîme m'encerclent. Les algues sont entrelacées autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'à la matrice des montagnes. À jamais les verrous du pays, de la mort, sont tirés sur moi. Mais de la fosse, tu m'as fait remonter vivant, ô Seigneur mon Dieu. Alors que je suis à bout de souffle, je me souviens et je dis, Seigneur, et ma prière parvient jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Les fanatiques des vaines idoles, qu'ils renoncent à leur dévotion. Pour moi, au champ d'action de grâce, je veux t'offrir des sacrifices et accomplir les vœux que je fais. Au Seigneur appartient le salut. Alors le Seigneur commanda au poisson, et aussitôt le poisson vomit Jonas sur la terre ferme.
Nous allons écouter maintenant une deuxième histoire de navigation et de tempête. Au chapitre 27 des Actes des Apôtres, c'est le début du voyage pour l'Italie de Paul. Quand notre embarquement pour l'Italie eut été décidé, on remit Paul et d'autres prisonniers à un centurion nommé Julius, de la cohorte Augusta. Nous sommes alors montés à bord d'un bateau d'Adramyttium en partance pour les côtes d'Asie et nous avons pris la mer. Il y avait avec nous Aristarque, un Macédonien de Thessalonique. Le lendemain, à l'occasion d'une escale à Sidon, Julius, qui traitait Paul avec humanité, lui permit d'aller trouver ses amis et de profiter de leur accueil. De là, reprenant la mer, nous avons fait route sous Chypre, car les vents nous étaient contraires. Ce fut alors la traversée de la mer qui borde la Cilicie et la Pamphylie et nous avons débarqué à Myre, en Lycie. Le centurion, trouvant là un bateau d'Alexandrie en route vers l'Italie, nous y a fait embarquer. Durant quelques jours, notre navigation fut ralentie et c'est à grand-peine que nous sommes arrivés à la hauteur de Cnide. Comme le vent nous contrariait, nous sommes passés sous la crête, vers le cap Salmoné. Et après l'avoir doublé de justesse, nous sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lassaïa. Mais un certain temps s'était écoulé et il devenait désormais dangereux de naviguer puisque le jeûne était déjà passé. Paul voulut donner son avis. « Mes amis, leur dit-il, j'estime que la navigation va entraîner des dommages et des pertes notables, non seulement pour la cargaison et le bateau, mais aussi pour nos personnes. » Le centurion, néanmoins, se fiait davantage au capitaine et au subrécargue, qui était le délégué du propriétaire du bateau, qu'aux avertissements de Paul. Comme le port, en outre, se prêtait mal à l'hivernage, la majorité fut d'avis de reprendre la mer. On verrait bien si l'on pouvait atteindre Phénix, un port de Crète, ouvert au sud-ouest et au nord-ouest, et y passer l'hiver. Une petite brise du sud s'était levée. Et ils s'imaginèrent que ce projet était réalisable. Ayant donc levé l'ancre, ils tentèrent de border la côte de Crète. Mais presque aussitôt venant de l'île, un vent d'ouragan qu'on appelle Euraquilon s'abattit sur eux. Le bateau fut emporté, incapable de remonter au vent, et laissant porter, nous allions à la dérive. Filant sous le couvert d'une petite île appelée Coda, nous avons pourtant réussi de justesse à maîtriser le canot. Après l'avoir hissé à bord, on a eu recours aux moyens de fortune. Ceinturer le bateau de cordage et, par crainte d'aller échouer sur la Sirte, filer l'ancre flottante et l'on a continué ainsi de dériver. Le lendemain, comme nous étions toujours violemment secoués par la tempête, on jetait du fret. Et le troisième jour, de leurs propres mains, les flots affalèrent les gréements. Ni le soleil, ni les étoiles ne se montraient depuis plusieurs jours. La tempête, d'une violence peu commune, demeurait dangereuse. Tout espoir d'être sauvé nous échappait désormais. On n'avait plus rien mangé depuis longtemps, quand Paul, debout au milieu d'eux, leur dit « Vous voyez, mes amis, il aurait fallu suivre mon conseil, ne pas quitter la crête et faire ainsi l'économie de ses dommages et de ses pertes. Mais à présent, je vous invite à garder courage, car aucun d'entre vous n'y laissera la vie. Seul le bateau sera perdu. » Cette nuit même, en effet, un ange de Dieu, auquel j'appartiens et que je sers, s'est présenté à moi. Il m'a dit « Sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde aussi la vie de tous tes compagnons de traversée. Courage donc, mes amis. Je fais confiance à Dieu. Il en saura comme il m'a dit. Nous devons échouer sur une île. » C'était la 14e nuit que nous dérivions sur l'Adriatique. Vers minuit, les marins ont pressenti l'approche d'une terre. Jetant alors la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. À quelque distance, ils la jetèrent encore une fois et en trouvèrent 15. Dans la crainte que nous ne soyons peut-être sur des récifs, ils ont alors mouillé 4 ancres à l'arrière et souhaité vivement l'arrivée du jour. Mais comme les marins, sous prétexte de s'embosser sur les ancres de l'avant, cherchaient à s'enfuir du bateau et mettaient le canot à la mer, Paul dit aux centurions et aux soldats « Si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pouvez pas être sauvés. » Les soldats ont alors coupé les filins du canot et l'ont laissé partir. En attendant le jour, Paul engagea tout le monde à prendre de la nourriture. « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous passez dans l'expectative sans manger et vous ne prenez toujours rien. Je vous engage donc à reprendre de la nourriture, car il y va de votre salut. Encore une fois, aucun d'entre vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Sur ces mots, il prit du pain, rendit grâce à Dieu en présence de tous, le rompit et se mit à manger. Tous alors, reprenant courage, s'alimentèrent à leur tour. Au total, nous étions 276 personnes à bord. Une fois rassasiés, on allégea le bateau en jetant le blé à la mer. Une fois le jour venu, les marins ne reconnaissaient pas la terre, mais ils distinguaient une baie avec une plage et ils avaient l'intention, si c'était possible, d'y échouer le bateau. Ils ont alors filé les ancres par le bout, les abandonnant à la mer, tandis qu'ils larguaient les avirons de queue. Puis, hissant au vent la civadière, ils ont mis le cap sur la plage. Mais ils touchèrent un banc de sable et y échouèrent le vaisseau. La proue enfoncée resta prise tandis que la poupe était disloquée par les coups de la mer. Les soldats eurent alors l'idée de tuer les prisonniers de peur qu'ils ne s'en échappent à la nage. Mais le centurion, décidé à sauver Paul, les empêcha d'exécuter leur projet. Il ordonna à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers et de gagner la terre. Les autres le ferait soit sur des planches, soit sur des épaves du bateau, et c'est ainsi que tous se sont retrouvés à terre, sains et saufs.
Well, when the saints go marching in,
go marching in.
Well, when the saints
go marching in.
Good Lord, I want
to be in that number.
When the saints
go marching in.
Well, I had a loving mother who has gone on before. I promised the Lord I would meet her. Well, when the saints go marching in.
Oh, oh, when the saints,
when the saints
go marching in,
go marching in,
well, when the
saints go marching in.
Yes, I want to be in that number. Yes, when the
saints go marching in.
Well, I had a loving father who has gone, Lord, on before. I promised the Lord I would meet him. Well, when the saints go marching in.
Oh, when the saints,
when the saints
go marching in,
go marching in.
When the saints.
Radio Grand Ciel, émission de l'Église protestante unie, avec à la technique Simon Martin. Nous parlons aujourd'hui de l'amour, amour philos, amour eros et surtout amour agapé, plus fort que la mort, plus fort que la foi, amour offrande de soi au service des autres. Ces deux paroles, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même, sont les porte-étendards de la foi chrétienne. Elles résument tellement bien la vie et l'enseignement de Jésus. Elles éclairent ses rencontres, les histoires qu'il invente, les guérisons, la mort qu'il affronte. Pour Jésus, ces deux phrases contiennent toutes les autres, remplacent toutes les autres. Marc, l'un des évangélistes, raconte qu'un scribe, un spécialiste de la Bible, interroge Jésus. Il veut savoir ce que Dieu attend. Voici le récit de leur rencontre. Un scribe s'avança. Il les avait entendus discuter et voyait que Jésus leur avait bien répondu. Il lui demanda: « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit: « Le premier, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voici le second: « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. » Le scribe lui dit: « Très bien, maître. Tu as dit vrai, il est unique et il n'y en a pas d'autre que lui, et l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, cela vaut mieux que tous les holocaustes et sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit: « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. »
Ainsi, selon Marc, Jésus résume la volonté de Dieu par ce double commandement d'amour. Pour Luc, ce résumé ne vient pas de Jésus, mais d'un légiste, un spécialiste de la loi juive. Et voici qu'un légiste se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve: « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu ?» Il lui répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit: « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. » Ainsi, le double commandement d'amour est donné tantôt par Jésus, tantôt par ses interlocuteurs. Dans les deux cas, ces paroles disent l'essentiel de la volonté de Dieu, de la vie de Jésus et de son enseignement. Elles le font si bien que nous finissons par croire qu'elles sont des inventions géniales du christianisme. Pourtant, « Tu aimeras le Seigneur et tu aimeras ton prochain comme toi-même » se trouve bien dans l'Ancien Testament, en deux commandements distincts, en deux paroles séparées, offertes à Moïse et à un peuple sur le point de s'installer dans le pays de Canaan.
Les temps troublés de l'histoire seront pour vous l'occasion d'être mes témoins, disait Jésus à ses disciples. En un temps troublé, le récit de ce terrible voyage de l'apôtre Paul, arrêté à Jérusalem, transféré à Rome pour y comparaître devant l'empereur, prend une allure de parabole.
Sur un navire menacé, autant que notre monde dans lequel nous sommes tous embarqués, un homme de Dieu, solidaire de ceux si divers avec lesquels il a été amené à vivre cette grande traversée, avertit ceux qui gouvernent, qui dirigent le navire. Il les avertit du danger.
Et puis, lorsqu'arrive le danger, quand tout semble perdu, l'homme de Dieu apporte une parole d'apaisement au milieu de la tempête, une promesse de salut. Pour lui, croyant, c'est un droit et même un devoir de se soucier de la marche du navire, d'interpeller le capitaine lorsqu'il se rend compte que les décisions prises sont dangereuses pour tout le monde.
Et ce faisant, il n'oublie nullement sa vocation d'évangéliste. Il sait que l'important pour lui est d'atteindre Rome pour y annoncer la bonne nouvelle. Sur le bateau, au cœur de la tempête, Paul est seul dans sa foi et sa lucidité. Sa lucidité étant la conséquence de sa foi. Il a sûrement peur, comme tous, mais il n'en a pas honte.
Il a sûrement peur, mais il est sur le pont. Sur le pont et non au fond de la cale comme le prophète Jonas qui se bouche les oreilles pour se retirer du monde, sourd aux cris de détresse des hommes, sourd et muet et inconscient, car il oublie qu'il est sur le même bateau, enfermé à double tour dans sa petite église personnelle à fond de cale.
Quand on n'entend plus la voix des hommes, du coup on n'entend plus non plus la voix de Dieu. C'est sur le pont qu'il faut aller pour faire face avec les autres, pour témoigner de sa foi au cœur de la tempête. Alors, les sourds entendent et les aveugles voient.
Paul avait prévenu, avant le départ du navire, le capitaine, de la folie d'un voyage en période de tempête. Et c'est parce qu'il avait parlé avant le déchaînement des éléments qu'il sera écouté ensuite, au plus fort de la tempête, quand tout espoir semble perdu.
Quel courage il aura fallu à Paul, prisonnier, renvoyé au fond du navire, quand il ose intervenir alors. Aurait-on écouté Paul au moment tragique s'il n'avait pas parlé avant? Puis contraint et forcé de rejoindre les autres prisonniers, il ne peut que se taire, il n'a pas le choix, en tout cas pas celui de quitter le navire rendu ingouvernable, livré à la mer en fureur pendant 14 jours. Que doit dire l'homme de Dieu maintenant? Pas une fois on ne l'entend clamer sa colère, brandir la vengeance de Dieu. Quelle belle tentation pourtant! La tentation si fréquente, si facile, des chrétiens séparatistes, sûrs d'eux-mêmes. Tentation aussi grave que celle du silence.
Paul n'a d'autre parole à dire que celle de Dieu. D'autre mission que d'annoncer l'Évangile si admirablement. Les périodes troublées de l'histoire seront pour vous l'occasion d'être mes témoins, dit Jésus. Comme la voix de Paul est un homme étonnamment calme et forte, au sein du vacarme, de la folie, dans le tourbillon des vagues déchaînées.
Paul dépassionne les débats, car on panique sur le bateau, on s'énerve, on s'insulte, chacun proposant sa solution pour sauver le navire, cherchant en fait surtout à sauver sa peau, et tant pis pour les autres, comme les marins prenant la chaloupe.
Prenez courage, ne craignez pas, ce monde a un seigneur, un sauveur, qui nous aime, même malgré nous, nous libère et nous pardonne. Tout est sacrifié pour sauver ce qui a le plus de valeur sur le bateau, la vie.
Au plus profond de la tempête, il faut savoir faire les bons choix, sacrifier la cargaison et même le gréement du navire. Dieu s'est passionné pour la vie des hommes, non pas pour sauver leur bateau, leur technique, leur civilisation, leurs richesses, même pas leur religion, leurs églises, mais leur vie, leur personne. Ces personnes si diverses sur le bateau en perdition, qui prennent aux yeux de Dieu une immense valeur, des prisonniers jusqu'aux soldats, des marins jusqu'aux commandants.
Choisir la vie, c'est se défaire de tant de choses, soi-disant indispensables, qui entravent jusqu'à la marche. La voix de Paul qui avait retenti avant l'embarquement, qui retentit à nouveau maintenant, alors que tout semble perdu, cette voix, cette parole, c'est la même que le peuple de Dieu a si souvent entendue pendant des siècles, avant les folles aventures, comme lors de tant d'événements dramatiques. La voix que, sous l'occupation romaine, d'humbles bergers perçurent une nuit aux environs de Bethléem.
Cette voix que tant de désespérés et de malades ont écoutée, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Cette voix que les disciples effondrés de chagrin dans la chambre haute ont reconnue, familière, apaisante. Cette parole que l'Église devrait toujours savoir reconnaître et faire entendre, dans la joie comme dans la peine, dans la paix comme dans la guerre, dans notre monde en désarroi, dans une Église menacée de perdre sa force, cette voix se fait entendre à chacun de nous, même dans les tempêtes qui bouleversent nos vies.
« Ne crains pas, ne perds pas courage, » dit-elle. Et Paul dit cela à des hommes affolés, survoltés, prêts aux pires choses. Les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers. Comme est terrible l'homme qui détient le pouvoir et qui perd la raison et l'amour de ses frères.
Les croyants ne le sont pas moins, qui hésitent entre la violence et la prière, n'allant jamais au bout de l'une, heureusement, ni au bout de l'autre, et là c'est bien regrettable. Voulant surtout essayer de conserver leur sécurité, leur bien, leur tranquillité, avec la foi en plus si possible.
Ce qui s'est passé sur ce bateau perdu dans la tempête, c'est qu'une situation désespérée a changé parce qu'il s'y trouve un homme changé qui s'est fait à la fois solidaire et missionnaire des responsables. Il est là comme une apparition, annonçant la puissance de l'amour de Dieu sur les forces diaboliques, même quand tout semble perdu.
Quand tous seront sauvés, jamais plus ils ne pourront oublier cet homme de Dieu, debout sur le pont, dressé face aux éléments déchaînés, rompant calmement le pain et le leur offrant, comme le corps de notre Seigneur, donné à jamais pour eux, pour nous, pour que tous soient sauvés. Amen. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple, 20 rue Saint-Thomas. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
Has caught no fire, hallelujah. I feel that heaven is drawing.